printemps 1996, vous avez publié dans Social Text un texte dont le thème était qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Le texte était construit autour de citations d'auteurs éminents concernant les implications philosophiques et sociales des sciences naturelles et des mathématiques. Il y avait des propos absurdes de Jacques Derrida, Julien Christévin, c'est-à-dire d'intellectuels.
Christévin ne figure pas dans la parodie.
Ah,
elle figure dans le livre, mais pas dans la parodie. Mais
c'est-à-dire d'intellectuels dont l'œuvre a été importante, un important produit d'exportation vers les États-Unis. Après votre publication, vous avez fait savoir à tout le monde que c'était une parodie et ça a remué l'Amérique. Pourquoi avez-vous écrit ce texte et pourquoi avez-vous utilisé cette méthode?
Bon, donc il faut distinguer entre la parodie et le livre parce qu'il vise des cibles un peu différentes et s'insère dans des contextes assez différents. La parodie s'insère dans un contexte plutôt américain et est assez politique, c'est-à-dire que je me considère politiquement de gauche dans le sens très large d'un courant intellectuel qui s'oppose aux inégalités croissantes de richesse et de pouvoir et cherche une société plus démocratique, plus égalitaire. Et j'ai constaté que certaines tendances de la gauche académique américaine ont adopté une philosophie assez vague, assez mal formulé, qu'on pourrait appeler génériquement relativisme ou postmodernisme, c'est-à-dire l'idée que des vérités objectives, des connaissances, des vérités objectives n'existent pas, des connaissances plus ou moins objectives du monde naturel ou social ne peuvent pas être obtenues, que toute connaissance est subjective, que toute même les sciences naturelles modernes ne sont que des mythes ou des narrations ou des constructions sociales parmi d'autres. Donc, je m'oppose à cette philosophie pour deux raisons. D'une part, intellectuellement, je crois qu'il se base sur quantité d'erreurs et de confusions mentales. Et d'autre part, politiquement, je crois que c'est suicidaire. La gauche est un courant minoritaire partout, et vous savez bien qu'aux États-Unis, c'est un courant infinitésimal. Et nous avons Et alors, notre tâche, si nous voulons progresser, c'est d'élaborer une analyse de la société actuelle basée sur la rigueur, basée sur les faits. Élaborer une analyse qui peut convaincre les gens qui ne sont pas convaincus d'avance et puis proposer des changements. Et on ne peut pas faire cela sur la base du relativisme. Nous devons affirmer que notre analyse est meilleure.
D'accord. Alors pourquoi avez-vous adopté cette
méthode de parodie? Oui, parce que malheureusement, j'avais constaté que ces milieux américains de cultures... Excusez-moi que je ne parle pas pour vous, parce que j'aime bien parler à une personne, mais à cause de, en fait, à cause de la micro. Alors, j'ai constaté que ces milieux américains qui se trouvent dans les départements, pour la plupart de littérature, de certains départements de sciences sociales, de cultural studies, dans certaines tendances de women's studies, etc., ces milieux ont été assez fermés à des critiques raisonnées qui provenaient d'ailleurs, ou même qui provenaient de l'intérieur, et que, bon, ils n'étaient pas... D'autres avaient déjà fait des critiques raisonnées sur le front, et la réponse était ou bien d'éviter de répondre, de faire comme si les critiques n'existaient pas, ou bien de les attaquer sur les motivations politiques, de dire qu'il s'agissait des gens de droite, etc. Donc, j'ai eu l'idée d'écrire une parodie. Une parodie qui soit à la fois un canular, c'est-à-dire, je crois que la satire est une art assez traditionnelle depuis, 260 ans du moins, Jean-Martin Souet, etc. Une arme pour
Oui, mais vous êtes allé raconter après, c'est-à-dire que c'était la seule manière de l'imposer.
Oui, donc j'ai conçu l'idée, c'était à la fois une parodie, une satire, et un canular expérience, c'est-à-dire, c'était en partie une expérience, je voulais savoir si cet article passerait ou pas, je n'étais pas certain.
Non, parce que c'est tellement absurde, c'est difficile de croire. Moi, je ne croyais pas qu'il allait passer. Je sais qu'on a parié une bouteille, enfin, moi, je n'ai pas payé ce
jeu. Oui, avec deux amis, j'ai parié.
Parce que quand quelqu'un dit, par exemple, dans un article, que les mathématiciens sont mis à étudier les variétés à bord sous l'impact des critiques féministes, il ne faut rien connaître aux mathématiques pour avoir un certain bon sens sociologique, pour se rendre compte que même si les critiques féministes étaient légitimes, les mathématiciens n'y prêteraient aucune attention. Il suffit de connaître un peu l'arrogance des mathématiciens. Donc, d'accepter des phrases pareilles.
Et l'absence de pertinence entre les critiques féministes.
Supposons que oublie toutes les questions intellectuelles, juste prends ton bon sens. Mettons que les critiques soient justes, d'accord, qu'ils aient un sens. D'accord. Mais évidemment, les mathématiciens ne vont pas y prêter attention. Donc, je ne sais pas comment des gens qui en plus n'arrêtent pas de dire que les scientifiques sont arrogants et n'écoutent pas peuvent laisser passer des phrases pareilles. Tu vois?
Bon,
on a beaucoup de gens qui nous disent. Il y a des gens qui nous disent ce qu'on dit est idiot, mais j'ai eu plusieurs fois la discussion, on commence par nous dire que c'est idiot. Quand je précise ce qu'on dit dans le livre, on dit qu'on l'a déjà dit avant. Mais seulement qu'on n'a pas eu d'effet. Alors on nous reproche que notre livre a un impact. Maintenant, l'impact de la parodie, regardez le livre de Gross & Levitt. Il a été reçu de façon très mauvaise, dans le sens qu'on a très peu discuté leurs arguments. On a discuté de leurs intentions et de leurs
prétendues
intentions. On n'a pas discuté de leurs arguments. Et alors, effectivement, la parodie était une façon d'éviter que le débat ne soit enterré de cette façon-là. Maintenant, en France, on fait la même chose, on attaque nos intentions. Et on ne discute pas nos arguments.
Et je dois souligner une autre chose à propos de la parodie, parce que je crois que tant que nos partisans ont parfois exagéré. La parodie, le fait que la parodie a été acceptée ne prouve pas grand-chose en soi. Parce que ça prouve qu'une revue de mode a accepté un article pour des raisons politiques ou de stratégie au lieu des raisons intellectuelles. Mais bon, ça ne dit pas que cet article aurait passé chez d'autres revues. Ce qui est important dans la parodie, c'est le contenu de la parodie, les citations ridicules. Cette partie de l'histoire de la parodie qui a donné naissance plus tard au livre.
Voilà. Alors, je voudrais savoir une chose. La collection Paul, la droite.
Bon, je ne dirai pas opposition de la gauche et soutien de la droite. Je crois que ça veut dire qu'il n'y a pas de lien simple entre des positions intellectuelles ou philosophiques et des positions politiques. Nous avons été soutenus par des gens de gauche et de droite sur des questions qui, au fond, ne sont pas d'ordre politique. Cela dit, il est vrai que ce que ma parodie, surtout, a été récupérée par quelques gens de droite pour leurs propres intérêts. Et j'ai réagi à Roberto Campos. J'ai écrit une réponse dans Folia. À Roberto Campos et pour expliquer que je ne ridiculisais pas toute la gauche américaine, je ridiculisais une certaine tendance de la gauche et que dans cela j'ai été soutenu par peut-être la plupart de la gauche américaine, et j'ai cité Carter Pallet, une journaliste féministe très connue dans The Nation, qui est peut-être l'hebdomadaire de gauche la plus importante des États-Unis. J'ai été soutenu par Ruth Rosen, un professeur d'histoire à l'Université de Californie, féministe elle aussi, etc. etc. Je dirais que 80% des revues de gauche m'ont soutenu.
D'accord. Alors...
C'est une imposture, certainement pas. Peut-être nous n'avons pas bien exprimé ce que nous voulions dire et donc je voudrais l'éclairer. Nous relevons dans certains textes de ces autres, nous avons regardé ce que disent ces auteurs lorsqu'ils abordent les domaines dans lesquels nous pouvons prétendre à une certaine compétence, à savoir les maths et la physique. Et nous avons observé que dans ces domaines, ces auteurs ont commis de graves abus utiliser, jeter des mots savants à la tête du lecteur dans un contexte où ils n'ont aucune pertinence, déformer le sens de termes scientifiques, etc., etc. Ce qui constitue dans ces textes-là des impostures, des abus de rationalité. Alors, qu'est-ce que nous disons à propos, qu'est-ce que cela dit, qu'est-ce que cela prouve à propos du reste de leur œuvre? Strictement rien, logiquement.
Mais attendez,
je n'ai pas fini.
Oui, d'accord.
Ça veut dire, bon, strictement rien, logiquement, cela n'invalide pas le reste de leur œuvre. Nous sommes explicitement agnostiques sur le reste de leur œuvre, la partie qui ne fait pas référence à la physique et aux maths. Nous ne le soutenons pas et nous ne le critiquons pas. Évidemment, donc, vous allez me demander, alors, quelle est l'importance de votre livre si, même selon vous, les abus des maths et de la physique constituent une très petite partie de leur œuvre.
Non, moi je pense que votre livre est important.
Oui, oui.
Mais je dis.
Oui, mais
là,
moi je.
Là, vous avez déraillé.
Oui.
Oui. Je vais
répondre avec ça sur une
Non, mais attends. Donc, évidemment, l'idée est que si l'on trouve de graves abus, de graves impostures dans une partie de leur œuvre, on est en droit de se poser des questions sur le reste de leur œuvre. Nous ne sommes pas compétents pour conduire ce travail à la fin, mais nous souhaitons que d'autres le fassent. Tu allais expliquer. Hegel est peut-être aussi comme on a écrit dans le TLS.
Mais
il y a une bonne explication.
Je pense que l'exemple qu'on donne avec Hegel et Russell est intéressant. C'est-à-dire que Bertrand Russell a été élevé dans une tradition hegelienne à Cambridge au 19e siècle. Et il dit que quand il s'est mis à lire Hegel et qu'il a lu ce que Hegel disait sur les mathématiques, ça lui a ouvert les yeux. Et puis il s'est détaché de cette tradition. Et moi, je pense que ça pose une question. On pose une question. Et la réponse de nos adversaires à ce qu'on dit est très simple. Et on n'arrête pas de le dire, ce qu'ils devraient dire, mais ils ne disent pas ça. Ce qu'il devrait dire, c'est ceci. La physique de Descartes est presque entièrement fausse. Bien sûr, Descartes est un type sérieux en physique, mais c'est faux. Mais la philosophie de Descartes, à mon avis, pose des questions qui sont toujours intéressantes aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je pense ça. Et on peut très bien dire, la physique est fausse, mais en philosophie, ils disent des choses intéressantes. Et on pourrait dire ça avec ces auteurs-là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils estiment intéressant dans le reste de la peur.
Et qu'ils expliquent
de façon clairement, parce que Descartes, il faut expliquer clairement quel est le problème qu'il pose.
D'accord.
Vous êtes écrivain, vous vous dites ça, alors on va vous mettre en débat avec Lyotard, qui lui est un philosophe, et qui nous dit, c'est de la littérature. Alors nous on dit, on n'en sait rien, si c'est de la littérature, c'est très bien. On va demander à Betty Milan ce qu'elle en pense. Nous on ne va pas dire que c'est de la mauvaise littérature.
Mais du moins qu'on vende ces livres-là dans les rayons de littérature, de poésie, de roman, et pas de philosophie.
Mais c'est injuste, alors écoutez-moi la partie injuste. C'est injuste dans la mesure où vous ne citez que des textes incompréhensibles, et que vous ne tenez pas compte de ce qu'ils ont pu faire comprendre. Que pouvez-vous répondre à cela?
Nous avons choisi un thème, d'accord, qui est l'abus, mais vraiment l'abus extrême. On pourrait discuter de toutes sortes d'autres emprunts un peu plus compliqués, mais l'abus extrême de concepts de physique et de mathématiques dans des œuvres non scientifiques. Bien. Alors moi, je trouve que c'est un abus d'autorité. Des gens tiennent des discours du haut de leur chair, utilisent leur argument d'autorité, se drapent dans une connaissance des sciences exactes, etc. Et je trouve que c'est normal de dénoncer. Mais non, c'est vrai que le reste de leur œuvre, bon, ça, on laisse les gens poser des questions. Vous imaginez qu'on écrive un livre, on parle de philosophie, de psychanalyse, de sémiotique, de sociologie, etc. Et nous, pauvres physiciens, nous donnions notre avis là-dessus. Et nous reconstruisons tous ces domaines, nous donnons notre avis sur tous ces domaines. Je veux dire, ce serait insensé. D'abord, ce serait un livre de 1500 pages. Et deuxièmement, tout le monde nous descendrait en flamme en disant, d'où c'est la citation de Chomsky qu'on met au début, dès qu'on parle dans des domaines comme ça, sans avoir de diplôme, on va vous tomber dessus en disant vous n'avez pas de diplôme, on n'a pas le droit d'en parler. Ça, c'est ce qu'on va nous dire. On nous dit déjà ça. Oui, à vous, mais je dis, on est déjà critiqué parce qu'on nous dit vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire, même quand il parle de mathématiques. Alors, évidemment, on va nous dire qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire dans le reste. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on ne peut pas circonscrire le débat sur le thème qu'on a choisi. Parce que vous pouvez, je ne sais pas, je ne veux pas faire de l'analogie trop loin, mais vous pouvez faire un dossier sur les la corruption, par exemple, d'accord? Alors d'avoir des politiciens de gauche, des politiciens de droite, des clubs de football, des hommes d'affaires, et quelqu'un va venir dire qu'il y a de commun à tous ces gens.
D'accord.
Alors ce qu'on met de commun à tous ces gens, c'est le fait qu'il y a des abus de... Mais on n'a pas mis Derrida, on n'a pas mis Foucault, d'accord. On n'a pas mis Althusser, on n'a pas mis Bach, on n'a pas mis Mystère. Parce que l'abus chez eux, c'est pas, ou si on n'est pas d'accord avec eux, c'est autre chose. On n'a pas dit qu'on a écrit un livre contre ces gens comme philosophes. On a posé le problème de la... Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que ces gens-là. D'accord ? Il y a beaucoup d'autres personnes, de figures moins connues qui font ça, et qui se sentent visées à juste titre et implicitement par nous.
Donc, ces textes, oui, il faut le mettre. Si ces textes que nous citons dans le livre sont incompréhensibles, c'est... Et souvent pour la raison qu'ils ne veulent rien dire. Ces textes-ci.
Bon, que vous citons.
Ça, d'accord. C'est très important de le souligner. Parce que nous ne faisons pas de critique globale.
Est-ce que je peux rajouter une remarque à la question précédente, excusez-moi, mais c'est parce que. Il y a, bon, ça, c'est une remarque un peu sophistiquée à laquelle j'ai pensé l'autre jour. Mais les gens qui nous disent vous mettez ensemble des gens qui n'ont rien à voir sont des gens qui, par ailleurs, en général, vous disent que toutes les catégories sont construites. D'accord ? Alors, je ne sais pas très bien.
C'est un peu trop sophistiqué, ce thème.
Mais non, mais ils vous disent qu'il n'y a pas de catégorie naturelle, spécialement en sciences humaines, d'accord ? Ils te disent ça tout le temps. Alors moi, je ne vois pas qu'on peut créer une nouvelle catégorie, qu'on crée par notre discours, qui est l'ensemble des gens qui...
Alors, on revient à cette question.
Ok.
J'ai été l'élève de Lacan pendant plusieurs années, et ce n'est pas parce qu'il n'était pas immédiatement compréhensible qu'il ne voulait rien dire.
Bien sûr.
On pouvait ne pas le comprendre tout de suite parce que sa pensée supposait notre interprétation. Il laissait vivre dans sa théorie la logique de l'inconscient qui implique qu'on comprenne après coup, c'est-à-dire nachträglich, comme le disait Freud. Dans le cadre de la pensée psychanalytique, l'énigme et le temps sont fondamentaux pour le savoir. C'est tout le contraire pour vous. Physicien. Et c'est pourquoi je me demande si dans votre optique, la psychanalyse ne doit pas être tout simplement rayée de la carte.
Non. De nouveau, nous sommes agnostiques sur cette question et je constate, hier j'ai passé une soirée avec quelqu'un qui fait une psychanalyse et qui est très, très, très favorable à la psychanalyse et qui est entièrement favorable à notre livre. Parce que les gens peuvent être pour la psychanalyse et reconnaître que dans l'usage de mathématiques, disons, dans cette partie-là du texte, il y a imposture parce que ça ne vient rien faire, en fait. Que les mathématiques, c'est du vernis. Mais il peut détacher le vernis et garder le reste. Nous sommes agnostiques, là, si nous n'attaquons pas la psychanalyse. Mais seulement, c'est vrai que nous critiquons les gens. Ça, par exemple, la fin du chapitre sur Lacan, nous critiquons, en fait, nous ne les avons pas cités parce que c'était seulement sur l'internet, mais il y a un texte de psychanalyse qui nous critique, et qui nous critique, effectivement, en disant qu'on n'a pas le droit de parler même des mathématiques, parce que même les mathématiques vous échappent. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a le droit de dire que les mathématiques ne sont.
Je suis tout à fait d'accord avec vous quand il s'agit de la pensée mathématique. De Lacan,
je
mais vous dites aussi qu'il est très souvent incompréhensible.
Oui. Les extraits mathématiques.
Pour la...
Non, on dit le reste. Non, on dit qu'il est non.
Mais le reste est incompréhensible.
Pour la bonne raison qu'il ne veut rien dire. C'est là que je vous
Non, mais
l'attention.
Nous parlons de ces textes-ci. Il est vrai que d'autres textes de Lacan sont aussi difficiles de comprendre. Mais ces textes-là, nous ne disons rien là-dessus. Il est possible que ces textes-là soit difficile parce que profond. Nous disons uniquement que ces textes-ci sont incompréhensibles.
Quand même, on nous a souvent tenu les propos suivants. Vous voulez empêcher les philosophes de parler, parce qu'ils n'ont pas les diplômes, mais quel titre avez-vous pour parler de philosophie ? Il y a plusieurs malentendus. Nous n'empêchons personne de parler de quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Ce qui compte, c'est le contenu, pas l'identité. Par ailleurs, il y a une asymétrie. Nous ne prétendons pas juger la psychanalyse de Lacan, la philosophie de Deleuze, les travaux concrets de la Tour en sociologie. Nous limitons les énoncés qui se rapportent soit aux sciences, soit aux problèmes élémentaires, soit aux acteurs de science.
Donc, ça, c'est quand même minimum. Donc il faut souligner que ce n'est pas une attaque poujadiste qui dit que tout ce qui n'est pas immédiatement évident, clair pour le lecteur non initié, etc., soit des foutaises. Rien du tout. Évidemment, si on exigeait que tous les travaux soient immédiatement compréhensibles pour le public général, ça éliminerait 95% des travaux physiques. Nous voulons uniquement dire que dans ces textes que nous citons, qui font référence au domaine que nous connaissons bien, ces textes sont incompréhensibles parce qu'ils ne veulent rien dire.
Bon, alors, vous avez raison de parler du terrorisme de la pensée intellectuelle française.
De certains.
Oui.
On a utilisé le terrorisme intellectuel une fois dans une note en bas de page à propos d'un texte de Christ est là. C'est la seule
non,
fois.
Mais là, je vais tourner à une toute autre. Laissez-moi poser ma question.
Oui, ok. Mais
faut... Oui, d'accord, okay. J'ai entendu. Vous avez que c'est... Vous... Mais ce terrorisme n'est-il pas dû à la soumission des Américains du Nord au Sud, je parle des deux continents, à leur esprit systématique de perroquetage dans le champ des idées? Il me semble que quand on parle du sadisme, il faut aussi parler du masochisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un esprit d'imitation dans le continent américain, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, et que c'est peut-être pour ça que la pensée philosophique française a pu exercer son terrorisme.
Non, bon, il y a plusieurs choses qu'il faut distinguer. D'abord, on a utilisé le mot terrorisme une seule fois dans le livre, c'est dans une note en bas de page, à propos de Kristeva, où elle a cité un énoncé très 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 technique de la logique mathématique, une énoncé que même les physiciens ne comprendraient pas toujours, et même beaucoup de mathématiciens, elle l'a cité, elle l'a précédé de la phrase « on le sait ». Et pour un public non scientifique, on constate que ça c'est du terrorisme intellectuel à intimider le lecteur. Mais c'est la seule fois que nous avons utilisé le mot « terrorisme » dans un livre. Donc, mais l'autre chose que vous dites...
Vous ne pensez pas que leur... cette invasion de la pensée française est due au fait qu'en Amérique, que ce soit le Nord ou le Sud, il y a un esprit d'imitation.
Oui, je crois...
Dans le sud, il y en a beaucoup.
Non, on est à Paris, on est enrhumé à peine intégré. C'est ça ce que vous voulez dire.
Non, je parle l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Tous deux.
Vous voulez dire que le Nord domine le Sud ou bien vous voulez dire
que Paris domine les deux Amériques.
Donc, vous voulez dire on est éternu à Paris, on est enrhumé à Buenos Aires, c'est ça?
Ou à New York. Ou à New York. Je crois, dans cela, vous avez raison. Je n'utiliserai pas le mot terrorisme, mais il est évident qu'il y a des modes intellectuels.
L'esprit de perroquetage.
Perroquetage, ça veut dire quoi? C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Mais il est vrai que, d'une certaine façon, on peut dire cyniquement que les modes intellectuels parisiennes se reproduisent aux États-Unis, dans les universités américaines et peut-être aussi brésiliennes, avec un retard de 10 ans.
Voilà.
Ce qui est passé de mode à Paris devient la mode aux États-Unis. Il y a un noyau de vérité dans, évidemment c'est une exagération, mais il y a un noyau de vérité dans cela. Cela dit, il était, en effet, en France, parfois, on nous reproche d'avoir écrit j'ai été à la télévision hier soir, on nous a reproché d'avoir écrit un livre d'intérêt plutôt américain. Ils disent, cette pensée est déjà passée de mode en France. C'est vrai en partie, mais évidemment pas tout. Si c'était tout à fait passé de mode, pourquoi la réaction émotionnelle si forte?
Voilà.
Donc
pour répondre à cette question de la pensée française.
D'accord.
Moi, je pense que le débat n'est pas qu'une question... un débat, disons, entre pensée française et pensée anglo-saxonne, parce que justement...
Bien sûr.
Le débat est mondial, et en France, en France, il y a des critiques de ces gens-là depuis longtemps, et il y a un esprit français, une tradition française rationaliste qui est très différente. C'est pour ça qu'on dit qu'est-ce qu'il y a de commun, on donne cet exemple entre Diderot et Deleuze. Ils sont tous les deux français, je ne sais pas, je ne vois pas qu'on puisse retirer les penseurs des Lumières, par exemple, de l'héritage français. Mais c'est évident que ces gens-là ne sont pas dans cette tradition, ce qui est leur droit d'ailleurs. Il n'y a pas de pensée nationale, nous disons qu'il n'y a pas de ligne nationale qu'il faut suivre.
Et d'ailleurs, nous distinguons très clairement, nous soulignons qu'il faut distinguer très clairement entre des questions intellectuelles et des questions sociologiques, c'est-à-dire... Une chose est la validité ou l'invalidité d'une certaine pensée, de certains arguments. Une autre chose est de tracer la sociologie de l'histoire des idées. Nous croyons que toutes les deux choses sont importantes, mais évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes dans la sociologie des idées. Donc, dans l'épilogue, nous offrons quelques conjectures à propos des choses que vous dites, en effet. Et nous disons que c'est... Il y a une certaine pensée qui s'est développée en France dans les années 60 et 70 qui s'est exporté plus tard dans le monde anglo-saxon, il y a une autre pensée relativiste qui s'est développée plus tôt aux États-Unis et en Angleterre, qui s'est répandue plus tard en France. Donc nous avons essayé d'esquisser le développement sociologique historique de ces idées, mais enfin, en fin de compte, ce n'est pas notre... notre but principal.
Oui.
Le but principal est de parler des idées et pas de la sociologie.
Écoutez, Julia Kristeva vous a répondu en disant qu'à travers elle, vous étiez en train de critiquer la France entière, ce qui est évidemment exagéré.
Exagéré.
Mais là, elle a eu raison de vous opposer l'argument selon lequel les sciences humaines et tout particulièrement l'interprétation des textes littéraires et analytiques n'obéissent pas seulement à la logique des sciences exactes.
Bien sûr. Et pourquoi?
Deux choses d'une. D'abord, premièrement, on a dit dans le livre que c'était des livres anciens, des textes anciens.
À propos d'elle.
On l'a dit. Et qu'elle avait abandonné cette approche depuis longtemps. Donc, ce n'est pas elle qu'on attaque, mais seulement c'est un livre qui est toujours en vente, qui est toujours lu. Et donc, je ne vois aucune raison pour laquelle on ne veut pas critiquer cette œuvre, comme on peut critiquer Descartes ou Platon. Mais parce qu'elle en fait une attaque personnelle. Si on avait été déterré une thèse de doctorat, que tout le monde a oublié, alors ça aurait été évidemment attaqué personnellement. Mais ici, c'est un texte. Alors maintenant, je suis bien d'accord avec ce qu'elle dit, et je ne critique rien de ce qu'elle a fait après Sémiotiquet. Mais dans Sémiotiquet, ça c'est vraiment extraordinaire, elle invoque, elle jette à la tête du lecteur des termes de mathématiques extrêmement
sophistiqués,
des formules que les gens ne connaissent pas, qu'elle ne connaît pas. Et c'est tout, mais oui, mais alors c'est fondidable.
Ce que je veux savoir, c'est que vous répondez à l'argument selon lequel les sciences humaines...
Mais on est d'accord, Mais on est... Les études littéraires, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'alors je ne vois pas en quoi sert l'axiome du choix, c'est tout ce qu'on dit. À quoi sert l'axiome du choix dans ces études littéraires?
Oui,
c'est tout ce qu'on dit.
S'il retire le vernis mathématique,
elle peut faire ce qu'elle dit, on n'a pas compliqué. Mais seulement, n'oubliez pas qu'à l'époque, ce n'était pas des études littéraires, c'était la période qu'on pourrait appeler scientiste. C'est vrai que dans notre livre, on ne distingue pas la période scientiste et postmoderne. Mais cette époque-là, c'était l'époque où on discute un peu de scientisme en sciences humaines à la fin. Que, disons, on discute la période scientiste en sciences humaines où on a eu l'impression que plaquer des formules sur des problèmes permettait de faire de la science.
Et c'est
l'exemple extrême. Voilà, le scientisme en sciences humaines, hein, il y a une question là-dessus. Puis en fait, c'est référence un peu à un certain scientisme en psychanalyse et en études littéraires.
Bon. Là, c'est très bien ce qu'on a fait pour le début. Partie où on va parler de questions plus générales parce que je voudrais que ça soit un ensemble de siècles. Hein, bon, alors, y a-t-il incompatibilité entre une culture américaine basée sur le fait et l'information et une culture européenne ou française qui joue plutôt de l'interprétation et du style?
Oui. Cette phrase de Pascal Buettner dans Le Nouvel Obs m'a choqué fortement parce que. Oui, on le dit ici. Celui est un article qui paraîtra, je crois, dans le Times Literary Supplement en anglais. On le dit, si un Américain ou un Britannique avait dit cela, ce serait une expression d'un préjugé national incroyable. Et pourquoi? Cette affirmation revient à dire que les Français jouent sur le style et pas sur les faits et les informations. Je crois que ça revient à confondre la haute culture avec la haute couture.
Bon, c'est pas pour ça qu'on méprise l'un au nom de l'autre, hein. La haute couture, non, la haute couture.
Mais c'est tout simplement la pensée, que ce soit en sciences exactes ou en sciences humaines, ou même en littérature, bon, laissons de côté la littérature, c'est une autre chose que nous n'abordons pas, mais que ce soit en sciences exactes, sciences humaines ou philosophie, il s'agit de pensée, d'argument, de raisonnement, et pas uniquement de style. S'il s'agit uniquement... principalement du style, alors mettons ces livres-là dans les rayons de poésie.
C'est vrai qu'on a tendance à réagir un petit peu en faveur d'une séparation des genres. C'est-à-dire de dire, bon, on fait de la littérature.
Au fond, vous êtes plus royaliste que le roi, parce que vous voulez la séparation à la française. Il y a des moments où
pas de séparation. Qu'est-ce que vous appelez séparation à la française?
Non, parce que le classement, comme ça, à la manière...
Mais séparation entre quoi et quoi?
La classe entre la science et la poésie, une séparation très claire et très nette.
Mais d'abord, premièrement, ce que dit Bruckner, évidemment, est un peu insultant pour tous les gens qui font des sciences en France et des sciences humaines de type plus empirique que ce genre de discours dont on parle. Ça, il faut quand même reconnaître qu'il y en a beaucoup. Donc, les gens qui travaillent dans les départements dits sciences humaines en France, en sociologie, en psychologie, etc., en général, ne s'intéressent pas aux auteurs français. Les auteurs sont à la mode dans d'autres milieux, mais ils ne sont pas bons. Alors, l'autre chose, c'est que c'est vrai que je suis un peu irrité quand je rencontre un philosophe, comme on a eu Lyotard l'autre jour, qui me dit que vous ne comprenez rien, c'est de la littérature. Et puis je rencontre Betty Milan qui me dit, mais la littérature, c'est pas très bon. Moi, je suis agnostique sur leur qualité littéraire, je ne me prononce pas là-dessus. D'accord? Mais si on me dit que c'est pas de la bonne littérature d'un côté, et de l'autre côté, on me dit que c'est pas, vrai que c'est pas de la bonne philosophie ou de la bonne théorie, mais qu'on le vend comme littérature, il faut savoir ce qu'on dit. Là, j'ai un peu tendance à trouver que ça ne va pas le discours ni éternellement. C'est-à-dire, c'est pas, vous comprenez, c'est ni l'un, ni l'autre, mais alors c'est quoi finalement?
Quand Lyotard a dit que ce qu'écrivait Deleuze, c'est passé à la télévision hier soir, en effet.
Oui. Ils ont repassé. Hein. Oui. Il y a un débat entre Lyotard. Il y a un débat sur Deleuze, il a monopolisé la conversation.
Mais il dit que les écrits de Deleuze sont de la littérature, de la poésie, et bon, il prétend être philosophe, je crois. J'ai failli dire, avec des défenseurs comme vous, Deleuze n'a pas besoin d'ennemis.
Bon, la contribution des penseurs de langue française dans le domaine des sciences exactes, de la philosophie et des sciences humaines n'est pas négligeable dans ce siècle. Par exemple, bon, Jacob dans la biologie, De Broglie dans la physique, Schwarz dans la mathématique, Bachelard dans l'épistémologie, Durkheim dans la sociologie, Lévi-Strauss dans l'anthropologie, etc. Pouvez-vous expliquer comme ça un peu rapidement les principales contributions des Américains? Faire un petit bilan comme ça, si vous pouvez.
C'est tout à fait trop compliqué. Bon, faire un bilan global des contributions françaises et américaines. Parce que de toute façon, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas d'opposition nationale. Nous ne voulons pas dénigrer.
Je viens vous répondre, mais je veux qu'il soit inscrit que c'est une réponse tout à fait subjective. Je ne prétends pas faire un bilan de l'histoire des idées. Mais je peux souligner un penseur que moi je trouve extraordinaire dans ce siècle, qui n'est pas toujours apprécié, à mon avis, à sa juste valeur, c'est Chomsky. Donc ça, c'est quelqu'un que je trouve absolument extraordinaire, qui a beaucoup aimé la parodie, enfin, en tout cas, qui trouvait la parodie ici. Mais c'est intéressant de dire que lui, dans une interview, par exemple, se dit, à un moment, lui pose des questions sur ce qu'il croit, et il dit, moi, je suis un enfant des Lumières. J'aime bien cette expression. Et en fait, c'est très marrant de voir qu'il a appelé sa linguistique cartésienne, et d'une certaine façon, il est revenu aux questions qu'on posait même même les cartésiens et jusqu'aux Lumières françaises, donc jusque pratiquement à Hegel, si vous voulez, tout ce qui s'est passé avant Hegel, en tout cas en France, il est revenu à cette pensée-là, d'une certaine façon, et dans sa linguistique et dans sa politique. Parce que ces critiques politiques, si vous voulez, vous pouvez les voir, il le dit explicitement comme une continuation d'un certain libéralisme pré-capitaliste qui existait à l'époque des Lumières. C'est-à-dire l'idée de construire une société
égalitaire,
donc de se baser sur la raison, et construire une société qui mène au développement de chaque individu. Mais qui est très différent des projets, disons, de type marxiste qu'il y a eu au cours de ce siècle.
D'accord.
Et donc, je voulais vous demander un avis.
Dans le domaine de la science, proprement.
L'américaine, évidemment, fait énormément en sciences physiques et en physique et en biologie. Il y a eu des prix Nobel de paternalistes avec Feynman, Delman, etc., Weinberg, ça c'est autre chose. Mais je crois que vous pensez de l'histoire des idées. Pour moi, domine. Une autre figure qu'on cite souvent, c'est Rostov. Quand on nous dit qu'on est représentant de l'intégralisme de Carson, je dis, c'est vrai, mais les personnes qu'on cite le plus dans le moment de Carson, c'est pas ça de Chomsky, c'est quand même difficile de la présenter l'un comme l'intérêt britannique ou comme l'intérêt américain. C'est-à-dire, il faut, de nouveau, cette histoire qu'il a dit, que la lien entre la politique et les idées est quelque chose de compliqué. Parce que Chomsky et Russell sont des gens très rationalistes, ils auraient aimé notre livre.
De toute façon,
quand
on nous reproche un impérialisme culturel américain, Denis Duclos l'a fait dans Le Monde en janvier, que je peux imposer la culture de Disneyland en France, etc., il faut souligner que les Américains que nous soutenons, ce n'est pas l'Amérique de la CIA, c'est l'Amérique de Chomsky. tout à fait différent.
Le monolithique, vous pas, parce que vous êtes le plus... Mais les Français ont du monolithique de l'Amérique. C'est des cœurs américains. Moi-même, je venais d'un milieu culturel français. Quand j'ai été en Amérique, ça m'a frappé de voir que tous les Américains. J'avais aussi du monolithique de l'Amérique. Et quand j'ai été là, j'ai vu que c'était plus compliqué que ça, aussi dans la pensée. D'accord, je suis intellectuel, il y a des discussions comme ici.
Mm-hmm.
Mais maintenant, il ne faut pas me faire dire un truc que je suis d'accord avec tout ce que c'est comme ça aujourd'hui, et ça sera pratique de l'accord avec tout ce qu'il dit. J'ai vraiment dit que ça, ce sont des exemples de penseurs qui répènent hein, l'aime et l'autre qui l'aurait aimé, je crois, notre livre. Et le mot, mais comme si certainement aime en tout cas.
J'aimerais que vous parliez un petit peu, on arrive pratiquement à la fin, sur les conditions nécessaires à l'instauration d'un dialogue entre les sciences physico-mathématiques et les sciences humaines, entre ce que vous appelez les deux cultures.
Moi, je pense que...
On peut reprendre,
effectivement, oui,
oui,
qu'il y a
dans la répondre.
Ouais. J'ai oublié, je n'ai plus de sous le livre.
Oui.
Mais disons...
C'est pas la fin.
Oui, non, ouais. C'est pas pour un véritable dialogue. Et c'est-à-dire, le problème, c'est évidemment, d'abord, simplement qu'il faut éviter, disons, bon, on peut éviter cette guerre des sciences, quoi. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de guerre des sciences. C'est pas, on n'inscrit pas notre livre comme une attaque des sciences dures contre les sciences molles. Ça, c'est pas le cas. On pense qu'il y a des gens dans les sciences humaines qui nous soutiennent et des gens dans les sciences exactes qui nous attaquent. C'est une question compliquée. C'est vrai que c'est un appel à la pensée claire et rationnelle, etc., mais ce n'est pas, une attaque. Enfin, je pense que c'est le débat est vraiment traverse les disciplines. Quoi. Ce n'est pas le débat d'une discipline française. L'autre chose, c'est qu'effectivement, bon, les points qu'on a donnés ici, donc savoir de quoi on parle, c'est que on n'est pas. Oui, non, mais je ne sais pas si je reprends tous les titres. Je peux prendre les idées. Je veux dire. Non, mais je peux. Je veux dire, on insiste sur le fait. Il est parfaitement légitime, il me semble, de parler de sémiotique, de sociologie, etc. Sans vous retirez, à la limite, les auteurs qui nous critiquent, qu'on critique pour être meilleurs, mais ça va, on a dit des conneries, on retire tout ce truc de maths, et tout ce qu'on dit par ailleurs reste. Mais qu'ils le disent. Mais le problème, c'est qu'il y a un prestige qui est associé à cette invocation. Ils ne peuvent pas l'éviter.
D'accord.
Et donc, ils en ont des profits, alors évidemment, ils ont la perte en sortir des profits. Mais ils n'ont qu'à dire ce qu'ils disent sans invoquer des trucs arbitraires, c'est tout.
Mais moi, il y a un point que vous soulevez là, que j'aimerais bien qu'on parle de ça, parce que j'ai entendu en parler tant de fois, c'est-à-dire sur la disparition de certaines sciences dans la modernité. Pensez-vous qu'il va vraiment avoir la substitution de certaines sciences humaines par la neurophysiologie, la sociobiologie? On parle de ces choses.
Oui, mais
comment
ça,
vous voyez
mais...
ça? Que ça, c'est un
je vais faire quelque chose de très, très compliqué. Moi... Là, je sais pas si toi tu veux répondre. On a des opinions un peu différentes là-dessus d'ailleurs, donc c'est peut-être intéressant. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut une certaine ouverture d'esprit des deux côtés, d'accord? Et je pense, par exemple, j'ai moi-même eu cette attitude et je vois cette attitude en France, et il y a une très grande fermeture dans les sciences humaines vis-à-vis du discours biologique, d'accord? Moi, par contre, je suis minimalement darwinien, dans le sens que je pense que mes ancêtres, qui a suffisamment longtemps été des bestioles, des petites bêtes, et que on a évolué à partir de ces bêtes-là. Alors, il me semble que notre condition animale peut nous apprendre certaines choses sur nous-mêmes. Il n'y a pas de raison de négliger cet impact. Maintenant, évidemment, tous les sociobiologistes que j'ai lus reconnaissent qu'il y a une évolution culturelle, qu'il y a une histoire, qu'il y a des choses qui changent au cours de l'histoire. Et je pense qu'il y a des gens qui exagèrent, mais il y a aussi une attitude traditionnelle dans les sciences humaines de repli vis-à-vis de cette... Et je propose simplement d'avoir une certaine ouverture, un certain dialogue, et de ne pas avoir peur de la biologie. Moi, j'ai vu un biologiste dans un débat, c'était très intéressant, un biologiste très ouvert. Dans un débat, il dit la chose suivante que je trouvais intelligente, il dit quand Le Pen dit, il y a des trucs sur les races, etc., il dit des conneries, tout de suite on ramène des biologistes, on fait un congrès pour combattre Le Pen. Mais c'est sur les races humaines. Mais dès que les biologistes, comme sociobiologistes, disent quelque chose sur l'être humain, d'autres que ça, alors on leur dit vous mêlez d'accord sur les sciences humaines. D'accord? Alors il y a une contradiction. On ne peut pas les utiliser contre les fachos, et puis après, ce qui vient. Mais après, leur empêcher de parler d'être humain, il faut savoir ce qu'on veut.
Donc, ce que vous proposez, c'est une nouvelle ouverture. Quoi.
Mais oui,
c'est
je pense qu'il y a une fermeture. Il y a clairement une fermeture en France que des biologistes très modérés, très nuancés soulignent. Et je pense qu'il y a une certaine dialogue de conditions.
Bon, à propos de l'idée de clarté, je voudrais vous demander s'il s'agit de faire une science qui soit claire et partant pourrait devenir populaire.
Bien sûr.
Ah, vous pensez à ça?
C'est populaire dans le sens de la vulgarisation.
Oui, qui pourrait être populaire.
Mais il y avait, on souligne l'exemple, il y a eu toutes sortes de mouvements. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec une grande partie de la littérature de vulgarisation aujourd'hui me paraît excessivement obscure. Mais je pense qu'il y a eu des efforts de popularisation latente. Prenez par exemple Gamow. Il a écrit des livres que beaucoup d'adolescents ont lus dans ma génération, les livres de Tomkins, dont lui. D'accord ? Et c'était des très bons livres de vulgarisation, je pense. Ils étaient un peu simplistes jusqu'à un certain point, ils expliquaient les choses. Et cet effort, vous ne le trouvez pas dans des livres que je ne vais pas citer, mais décrits par des grands savants aujourd'hui, qui sont parfaitement obscurs et parfois misleading, si je peux le dire en anglais. D'accord ? Misleading, parce que
Les scientifiques
font beaucoup de. Répandent dans la littérature de vulgarisation, soit des erreurs, des abus, etc. Mais ceux qui le. Moi, j'ai écrit tout un article, je peux le citer quand même, je fais toujours la publicité, mais je critique des ouvrages de vulgarisation de Prigogine et Stenger, j'ai fait une longue critique de ça, à l'époque où il faisait son canular, dans le même esprit, qui est l'esprit d'essayer de réagir un peu à des courants culturels qui nous paraissent néfastes. Donc, quand je dis sciences populaires, on peut imposer à personne d'étudier la physique. Ma femme, elle ne veut pas entendre parler de physique, c'est très bien, elle me dit toujours, moi, je m'en fous de la physique, elle est antiquaire, et je trouve ça très bien. Mais seulement, elle ne va pas non plus commencer à parler de l'axiome du choix quand elle parle d'art. Vous comprenez?
Et d'autre part, dans le livre, chaque fois que nous abordons un certain domaine scientifique pour expliquer pourquoi, je ne sais pas, un texte de Kristeva ou de Lacan ne va pas, nous essayons de donner des références à de bons livres de vulgarisation. Et en effet, par exemple, pour expliquer ce qu'est la théorie du chaos, il existe un bon livre de Ruel. On essaie de l'expliquer nous-mêmes. Donc, dans le livre, notre livre comporte, entre autres, nos efforts de vulgarisation.
Quel rapport y a-t-il entre ça et le marché?
Entre la vulgarisation et le marché, bon, de notre livre ou
en général. Rapport, y a-t-il un peu ce propos de classé à tous les coûts et les exigences du marché?
Bon, malheureusement, oui, c'est compliqué. Je crois que malheureusement, une partie de la littérature des vulgarisations scientifiques pêche par les excès dus à la condition du marché, c'est-à-dire on insiste sur les théories les plus spéculatives comme si elles relevaient de la science établie. On exagère la nouveauté. On voit dans chaque nouveauté une révolution conceptuelle, etc., etc. Ce sont des excès, je crois, de marketing dans les livres de vulgarisation, parmi d'autres de bons scientifiques. Donc, il est difficile. Et aussi, il faut le dire, la vulgarisation est difficile. C'est une traduction de concepts scientifiques dans un langage non mathématique pour un peu public non scientifique. C'est très, très difficile. Dans notre livre, nous avons essayé de faire une vulgarisation de certains concepts. J'espère avoir réussi. Il y a une section où on explique quelques concepts de la théorie de la relativité. C'est bon, j'enseigne la relativité depuis des années. J'utilise mes connaissances pédagogiques, mais je ne sais pas si cela réussira avec un public non scientifique. On va voir.
Bon, alors, dernière question. Vous avez cité votre livre en parlant de l'époque des Lumières. Vous vous rappelez que c'était en France. Alors, je voudrais vous poser une question un peu générale, comme ça. Qu'avons-nous devant vous, les nouvelles Lumières ou autre chose, pour ne pas dire les ténèbres? Qu'est-ce que vous attendez des temps qui viennent?
C'est compliqué. Hein, on a failli écrire, on le fera probablement en anglais, un truc qui se serait intitulé pour un retour moderne, nuancé aux Lumières. Pour un retour nuancé aux Lumières. Donc, on aurait dû distinguer beaucoup trop de choses, on n'a pas eu le temps de le faire. Et bon. C'est une question très compliquée, mais ce qu'on a voulu souligner, évidemment, c'est que ça c'était peut-être un peu pour rappeler aux Français que notre livre n'est pas spécialement anti-français, et que ces penseurs-là, à mon avis, auraient aimé notre livre, et se tournent à leur tombe quand on voit qu'on nous attaque au nom de dire qu'on est anti-français ou qu'on attaque la pensée française, parce qu'ils font partie de l'héritage culturel français. Il n'y a pas de pensée d'un pays, il y a des contradictions à l'intérieur d'un pays, d'accord? Et donc, il y a des tas de scientifiques qui sont opposés à Bergson sur la relativité, mais qui aujourd'hui sont oubliés. Et c'est Bergson, quand on nous accuse de censure, quand on dit que le livre est toujours en vente, c'est parce que les gens qui l'ont critiqué ne sont plus en vente, c'est suspendu. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas être en vente. Et donc, je pense que sur la question des Lumières, c'est très compliqué, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser, moi, c'est trop long, très trop long à expliquer dans le livre, mais je pense qu'un certain esprit des Lumières devrait revenir. C'est-à-dire qu'à la fois, la critique des abus de pouvoir qui existent dans la société,
dont ceux-ci ne sont pas les pires, et une certaine attitude rationnelle ne sont pas incompatibles. Et c'est ça le problème qu'on a, que beaucoup de gens de gauche pensent que la réponse à ce qu'on appelle la pensée unique, c'est ce qu'ils appellent la pensée critique, mais sous ce qu'eux appellent la pensée critique, mais qui est une pensée extrêmement obscure, détachée de toutes les préoccupations des gens, et relativement relativement obscurantiste. Quoi. Enfin, pas toujours obscurantiste, mais relativement. Et ça, effectivement, nous sommes contre ça, mais nous pensons que ce n'est pas incompatible, disons, la préoccupation sociale et égalitaire qu'il y avait dans la tradition des Lumières, dans une certaine tradition des Lumières, pas toute, et un certain rationalisme.
Même si, bien sûr, il y a des aspects des Lumières qui doivent être critiqués, et il y a parfois un scientisme. Progrès cognitif, progrès technologique et progrès moral. Et évidemment, il y a eu un progrès cognitif incroyable. Nous savons beaucoup plus à propos de la nature du monde physique et biologique maintenant qu'il y a 50 ans et il y a 50 ans qu'il y a 3 siècles. Le progrès cognitif a entraîné aussi un progrès technologique qui a eu aussi, il faut le souligner, des effets mitigés. Il faut analyser avec rigueur. Et évidemment, le progrès cognitif et technologique n'a pas entraîné un progrès moral. Ou bien, ce sont des choses compliquées. Il faut distinguer tout. Il faut faire des distinctions très importantes et ne pas mêler tout. Ne pas dire quelle est la phrase que l'Auschwitz est la conséquence inévitable des Lumières. C'est ridicule, il faut distinguer.
Il y a dans les phrases comme on ne peut plus penser après Auschwitz. C'est ridicule. Il faut penser à cause Auschwitz.
En effet, si l'on ne pense pas.
J'allais tenir là.
On m'a dit, dans des débats, on m'a dit, vous comprenez les Lumières, regardez Hitler, etc. Mais Hitler et tous les nazis étaient explicites. Les fascistes étaient explicitement anti-Lumière. Quand il y a eu le 150e anniversaire de la Révolution française en 1939, ils ont critiqué les fascistes français, etc., étaient explicitement contre, les nazis célébraient la fin des Lumières, etc., donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Évidemment, ils utilisaient la technologie, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça que ce sont des choses très différentes, d'accord ?
C'est intéressant.
Oui,
des idées rationnelles, ils étaient contre, il faut quand même se rendre compte de ça. Je veux dire, tout le nationalisme, tout le racisme qu'il y a aujourd'hui, etc., n'est pas du tout dans l'esprit des Lumières, donc on ne peut pas nous mettre tout ça dans le même sac. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus faire l'amalgame entre les gens ici, évidemment, et l'extrême droite, comme parfois d'aucuns le font. Toutes ces questions sont très compliquées, doivent être discutées et raisonnées.
D'accord. Je pense que ça a été... On a bien travaillé, donc...
On est moins
contre ennemis maintenant. Non, mais... Je...